On vient de finir le Perek Mamalef, le chapitre 41. Dans le chapitre 41, on a développé l'importance de la Yirat Hashem. On a simplement commencé à expliquer, on va vraiment le développer dans le chapitre 42. Perek Mamalef, on a développé l'importance de Yirat Hashem, l'importance de la crainte de Dieu. On a expliqué comment il était, a priori, c'était facile d'arriver à la crainte de Dieu. On a donné une technique en tout cas. Maintenant, il faut nous aider à la mettre en pratique. On a donné la technique. La technique, c'est de s'imaginer comment Dieu est très grand, d'accord, et que nous, on est très petits. De s'imaginer ce contraste-là. Et quand, d'ailleurs, c'est une innovation d'Edmond Razaken, ça, cette technique de la Yirat Hashem, de la développer comme ça, c'est une des innovations d'Edmond Razaken. Imaginez comment Dieu est très grand et nous, on est très petits. Et le contraste, d'accord, c'est le fait qu'on réalise le contraste que Dieu est très grand et moi qui est très petit, c'est ce déclic-là qui va se faire dans la tête, et ça, c'est ce qui pourrait s'appeler Yirat Hashem, la crainte de Dieu. Il va développer ça dans le chapitre 42, il va expliquer comment c'est pas du tout la crainte de la punition, mais au contraire, ça va être Irat Boshet. Irat Boshet, ça veut dire la crainte dans laquelle on a honte devant un Kadosh Baruch Hu qu'on se sent tout petit. Mais pour se sentir tout petit devant quelqu'un, il faut d'abord comprendre qu'il est grand. Ça, on a simplement commencé à expliquer dans le Perek Mem Aleph. Deuxième partie du Perek Mem Aleph, on a eu en quatre cours, on a expliqué
C'est difficile pour un homme, pour un être humain, de se sentir petit.
C'est très difficile. C'est pour ça qu'on a le Perek Mem Bet.
Contre sa volonté.
C'est très difficile. Normalement, c'est impossible, d'accord. Et la Gemara, on va amener des Gemarotes qui parlent de ça. Il y a beaucoup de choses pour amener qui parlent de ça.
À cause de la Kadosh Baruch Hu.
C'est Dieu qui nous a créé comme ça, bien sûr.
C'est tout. Hein. C'est pas parce que.
Donc, dans la deuxième partie du Perek Mem Aleph, du chapitre 41, on a expliqué le concept du Lechem Yichud. Soit le concept du Lechem Yichud, le concept du Messirut Nefesh. Un concept très très fort. Un concept qu'il faut savoir qu'en vérité, quand un juif a accompli Torah Mitzvot, il les accomplit pas pour soi, même si il aura quelque chose à la fin. Mais puisque de toutes les façons, quand on est dans le monde ici-bas, on ressent rien du tout, on peut même pas sentir ce qu'on aura en haut. Et même le peu qu'on ressent, c'est rien par rapport à ce qu'il y aura réellement. Ça veut dire qu'en vérité, un juif, l'Admor HaZaken, il a expliqué longuement comme un juif, en vérité, quand il fait le Torah Mitzvot ici, il est considéré Begeder Messirut Nefesh. C'est comme s'il était en train de faire Messirut Nefesh. Un srout extraordinaire. C'est un encouragement. Quand quelqu'un, il avance, il voit qu'il comprend pas. Au début, quand il a commencé à faire ses chouvas, par quoi il est attiré? Par la beauté de la Torah. Et après, il voit que plus il avance, et moins il comprend. Donc à un certain moment, il y a un problème. Il se dit, attends, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il explique à Edmond Razaken? C'est normal. Et au contraire, moins tu comprends, mieux c'est. Puisque ça, c'est le concept de Messirut Nefesh. En passant, il y a une note qu'on avait oublié de... Il y a une note qu'on avait oublié de faire dans le Perek Mem Aleph. Je vais vous la faire à l'oral. C'est une aga. Ah, on l'a pas faite. Et quand j'ai relu, j'ai vu qu'on l'a pas faite. D'accord? Je voulais expliquer à l'oral. L'Admor HaZaken avait expliqué, dans la Haga, il a expliqué que quand on fait Messirut Nefesh et qu'on monte à Kadosh Baruch Hu, qu'on n'est pas égoïste, et que nous, on fait Béchem Kol Israël, on va travailler pour le plan d'Akadosh Baruch Hu, pour le peuple juif. Alors, il ramène un Zohar qui dit qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il va faire Messirut Nefesh, entre guillemets. Et c'est ce qu'on appelle Amtakat Gvurat Bachasadim. C'est-à-dire que des fois, Kadosh Baruch Hu, il a une Gvura. Il a décidé que normalement, selon le din, il doit nous donner quelque chose. Il doit nous frapper, on doit recevoir quelque chose.
L'adoucissement de la rigueur.
Qu'est-ce qu'il dit Edmond Razaken? Il ramène quelques Zohar qui disent que, enfin, c'est pas écrit clairement, mais bon, il démontre de quelques Zohar, quelques textes du Zohar, que quand le juif en bas, il fait un effort, il monte à Kadosh Baruch Hu, qui ne travaille pas pour soi-même, et qui va mieux que le digne, si on peut dire, parce qu'il dit à Dieu, écoute, je ne vois pas ce que tu me donnes, mais je fais quand même. Alors, de l'autre côté, à Kadosh Baruch Hu aussi, il est même petit gvurot bachasadim, à Kadosh Baruch Hu aussi, va adoucir la rigueur bachasadim par la bonté. Ah, voilà. C'est-à-dire, non seulement, ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que non seulement, qu'à Kadosh Baruch Hu va enlever la rigueur, mais il va convertir la rigueur en bonté. Pourquoi? C'est ce qu'il explique dans la Haga là-bas. Moi, c'est que de toutes les façons, il faudrait beaucoup plus de temps pour développer. Il explique que quand Akadosh Baruch Hu, il envoie même une gvura, une rigueur, c'est une amshacha qui vient de chez Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Dieu envoie quelque chose, une émanation qui vient de chez Akadosh Baruch Hu. Une fois que l'émanation est partie, on ne peut plus la retenir. La seule chose qu'on peut faire, c'est que puisque de toutes les façons, on sait que En Ra Yored Mil Mala, qu'il n'y a pas de mal qui descend de chez Akadosh Baruch Hu. Donc même ce qui va nous apparaître en tant que mal en bas, en vérité, c'est pas un mal. Donc la seule chose que Dieu va faire, c'est qu'il va convertir cette voura, cette sévérité qui a une, enfin, cette bonté qui a une apparence de sévérité, il va la convertir de manière à ce que, même en apparence, elle sera bonne.
Par exemple? Bon.
Par exemple, beaucoup de choses. C'est ça ce qu'ils font les tzadikim. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait le tzadik en vérité? Il va prendre une émanation qui est là en train d'arriver déjà, et il va la convertir, il va dire que, on a envie de voir clairement comment c'est un chesed d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on a un principe que, en ra, yored mil mala, il n'y a jamais de mal qui descend de chaque Akadosh Baruch Hu. Bon. Une fois qu'on a eu cette introduction.
C'est après ça, ça devient redoutable. Avec le regard, je sais à quoi il a pensé. C'est
inévitable. Une fois qu'on a cette introduction, maintenant on va penser, maintenant on va commencer à le Perek Membet. Perek Membet,
je dis par ta bam.
On va essayer de développer comment, ok, tu m'as expliqué qu'apparemment il y a une technique pour la Ira, c'est que tu t'imagines comment Dieu est très grand, moi je suis très petit, mais bon, dans les faits on voit qu'on n'arrive pas à le faire dans la vie de tous les jours. On peut le faire peut-être une fois, pour un kippour. Comment on peut, on aimerait avoir des techniques pour arriver à cette technique. Surtout, que comment on va expliquer, la Torah nous dit que c'est accessible. Alors on aimerait savoir comment c'est accessible. Donc dis la demande à Zaka. Veine. Fema shene marleel be inyan iratata. Avec ce qu'on a expliqué précédemment, dans le chapitre 41, à propos de la iratata, à propos de la crainte, donc à propos de la crainte d'en bas. La crainte d'en bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire, hein, à ne pas confondre avec la crainte d'en haut. D'accord? À ne pas confondre avec la crainte d'en haut, qu'on expliquera après. La crainte d'en bas, ça veut dire la crainte basique. Le fait que j'ai peur de faire une avéra, et c'est tout. Pas que j'ai honte de Dieu. La crainte basique. Avec ce qu'on a expliqué.
La crainte quoi? Du coup de bâton?
La crainte, ça veut dire que je me sens petit.
C'est ça. Crainte,
il va développer. Petit. Il va développer tout de suite.
Bon, parce que le problème de Yuvan Etel.
Tata, ça veut dire est-ce que je sens que.
Ça veut dire tata.
C'est
en araméen.
Oui. Il y a tata, il y a ila. Il y a la crainte d'en bas, la crainte d'en haut. Ça veut dire comme ça. Est-ce que j'ai peur d'Akadosh Baruch Hu parce que je comprends que je suis tout petit? Ou est-ce que j'ai peur d'Akadosh Baruch Hu parce que je suis monté à un niveau tellement haut qu'à ce niveau-là, je comprends que c'est nul entre guillemets, de se révolter contre Akadosh Baruch Hu. On va développer ça, la différence. Mais disons qu'on va se baser surtout sur la ira tata. C'est ça ce qu'il explique. Ira tata, la ira basique, qui nous concerne à nous tous. On va essayer de la développer. Yuvan Etev, Mashekatu Bigmara, avec ça, je sais pas si vous avez remarqué, la Gemara Zaken a l'habitude souvent d'expliquer un concept, et après d'expliquer comment grâce à ce concept, on comprend une Gemara, on comprend un pasuk, on comprend quelque chose. Donc, ça va nous expliquer une Gemara, qui est a priori très étonnante. Yuvan Etev, Mashekatu Bigmara, ce qui est écrit dans la Gemara, Gemara Brachot, Al pasuk ve'ata Israël, ma Hashem elokecha shoel meimar. Pasuk qui dit comme ça. Pasuk dans le Chumash Dvarim, il dit, ma Hashem elokecha shoel meimar, dit, ve'ata Israël, et maintenant Israël, ma Hashem elokecha shoel meimar, qu'est-ce que Dieu demande déjà de toi? Qu'est-ce qu'il demande de toi? Ki im le ira et Hashem elokecha. Seulement de craindre ton Dieu. Ça c'est le pasuk. Imaginez-vous, c'est comme il y a un enfant, d'accord, que je lui demande de porter quelque chose, il n'arrive pas à porter. Je lui dis, mais qu'est-ce que je t'ai demandé déjà? Tu n'as rien à porter, ça. A priori, le pasuk qui parle comme ça, il dit, qu'est-ce que Dieu te demande déjà? De le craindre, c'est rien.
Oui.
Alors la Gemara donc bravo, pose la question.
Oui.
Elle dit, mais je comprends pas. Elle dit, atu ira milta zutredi. Est-ce que la crainte c'est quelque chose de petit? Surtout que la Gemara brachot elle continue. Elle dit que Ama Rabbi Chanina Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas écrit dans le texte ici. Voilà Rabbi Chanina a dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit que en le la Kadosh Baruch Hu et la ira tachem. Que c'est quoi le otsar de la Kadosh Baruch Hu? C'est quoi le trésor de la Kadosh Baruch Hu? Son trésor, ce que la Kadosh Baruch Hu considère comme un trésor, c'est la ira tachem, la crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Là-bas, les commentaires expliquent que de la même manière qu'une personne peut avoir beaucoup de récoltes, mais s'il n'a pas où les stocker, il n'a pas où les stocker convenablement, sans humidité, sans rien, ça ne va pas tenir. De la même manière, Mara a dit que par rapport à Kadosh Baruch Hu, Iratachem Yotzaro, la crainte de Dieu, ça c'est le Otsar de Dieu. Ça veut dire que si on veut maintenir notre attachement à Kadosh Baruch Hu, ça peut être que par la Iratachem, par la crainte de Dieu. C'est là qu'on peut stocker, qu'on peut conserver toute l'étude qu'on a fait. C'est-à-dire tout ce qu'on étudie, tout ce qu'on fait comme Mitzvot, c'est bien beau. Mais si on n'a pas la crainte de Dieu pour le conserver, ça vaut rien. Alors Gemara pose la question, elle dit, attends, on sait que la Yirat Hashem, c'est quelque chose de très très fort, que même Dieu, il dit que de toutes les mitzvot, cette mitzvah-là, c'est son trésor. Et toi, tu viens comme ça, tu me réponds, tu me dis, qu'est-ce que je te demande de craindre Dieu, c'est walou, c'est rien du tout. Comment tu peux vérifier à tout Yirat Mitzvah de Triti? Est-ce que la crainte, c'est quelque chose de petit? Ça, c'est la question de la Gemara. C'est ce qu'elle répond, la Gemara. Gemara répond, dit, in, oui. Ou en. Le gabé Moshe, Mitzvah de Triti. Oui. Par rapport à Moshe. C'est quelque chose de petit. Craindre Dieu par rapport à Moshe, c'est quelque chose de petit. Je vous la question. Chumash, quand Kadosh Baruch Hu s'adresse au peuple juif, il leur dit, Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha Shoel Meimar. Donc c'est Moshe qui s'adresse au nom de Dieu au peuple juif. Il dit, maintenant Israël, donc on parle à Israël, on parle à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que Dieu demande déjà de toi? Qu'est-ce qu'il demande? Kim Leira, seulement le craindre. Mara pose la question, elle dit, mais c'est pas facile le craindre. Qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit, si, pour Moshe Rabbeinu c'est facile. On a répondu à la question.
On a voté en tout.
Si vous allez ouvrir la Gemara Scroll, ou la Gemara Edition Safra, vous allez voir que là-bas ils posent cette question, et ils disent voir l'Ikuta Marim chapitre 42.
Ah bon? La classe!
Et c'est rare, il faut...
La classe, non? La classe!
Alors, donc, on va voir ce qu'il a à dire dans chapitre 42.
Il prend les références ici.
Eh oui!
Pour que Scroll amène...
Eh oui, hein.
Donc de l'Ichora, il ne dit pas voir Admor HaZaken, il dit voir dans le Sefer l'écouter à Marie.
Non, magnifique. On ne peut pas provoquer les gens qui arrivent pour la supporter.
De l'Ichora et Nemouvad. Parce qu'a priori, la réponse n'est pas compréhensible. Quelle est la réponse de la Gemara? Tiens, tu réponds comme réponse. Mais bon, oui, par rapport à Moshe Rabbeinu, c'est une petite chose. De Ha'ashuel Meimar Ktiv. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? Il parle au nom d'Akadosh Baruch Hu, et il dit, Ma Hashem Elokecha Shuel Meimar, qu'est-ce que Hashem demande de toi? En qui s'adresse au peuple juif? On ne parle pas pour Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, la Gemara explique là-bas que pourquoi par rapport à Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose de petit. La Gemara, elle dit là-bas, elle dit que quand on demande à quelqu'un quelque chose qu'il a déjà, alors il te dit, mais c'est rien du tout. Ouais. Même si c'est quelque chose de grand, mais dans ma tête, c'est quelque chose, c'est rien du tout parce que je l'ai déjà.
D'accord.
Alors que quand on me demande quelque chose que je n'ai pas, même si c'est quelque chose de petit, ça me paraît quelque chose de grand. Bon, ouais. Ça ne change pas que ça n'a pas répondu à la question. On répond toujours pas à la question. La Gemara dit, in le gabé Moshe, mil tazo treti, que par rapport à Moshe, c'est quelque chose de petit, ça ne répond pas à la question. La question était, comment, ma Hashem elokecha shuel meimar, qu'est-ce que Hashem demande de toi? Tu m'as pas répondu à la question. Tu m'as dit, qu'est-ce que Dieu demande de Moshe Rabbeinu? On sait que pour toi, Moshe Rabbeinu, c'est facile. Donc on n'a pas répondu à la question. Et là, on va expliquer en une ligne, et on aura besoin du chapitre 42, qui est le troisième chapitre plus long du Tanya, pour expliquer qu'est-ce qu'on veut dire. Donc le plus long chapitre, c'est le chapitre 39, après c'est le chapitre 41, qui était très long, et après c'est le chapitre 42.
Alors, en crescendo ou en décrescendo?
En crescendo. Non, en décrescendo, pardon. Ah, okay. Alors il dit comme ça. « Dit qui colle nefesh ve nefesh une bête Israël. » Et là, la réponse est comme ça. Dans chaque âme du peuple juif, Yeshba miprinat Moshe Rabbeinu à la vache à l'homme. Écoutez bien.
Voilà.
Qu'est-ce qu'il va répondre? Ça, c'est en un mot, on va devoir expliquer maintenant. C'est quoi le concept? Il dit comme ça. Il dit que chez chaque personne, chez chaque Neshama du peuple juif, on a un petit peu, on va expliquer comment, pourquoi, du niveau de Moshe Rabbeinu à la vache à l'homme. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que voudrait dire la réponse de la Gemara? Que si on éveille en soi le niveau de Moshe Rabbeinu, ce sera facile. Bon, alors d'abord, il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire qu'on a le niveau de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que c'est ce niveau de Moshe Rabbeinu et comment on l'éveille? On a beaucoup de choses à expliquer, mais ça, là va être le concept. Le concept va être que, en éveillant le niveau de Moshe Rabbeinu en soi, ça devient facile. Ça, c'est la ligne conductrice de ce chapitre. Ah, qu'est-ce qu'il explique? Kihu Mishiva Roim. Moshe Rabbeinu fait partie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que chaque personne du peuple juif, d'accord, chaque personne ici présente, chaque personne du peuple juif, a un petit peu en soi du niveau de Moshe Rabbeinu. Il explique comme ça. Il dit que Moshe Rabbeinu fait partie des sept bergers. On va expliquer après ce que c'est un berger. Amam Shichim Chayut Ve Elokut Liklalut Neshamot Israël. Moshe Rabbeinu fait partie des sept bergers qui vont inspirer et qui vont amener de l'énergie et de la divinité. On va expliquer tout de suite. D'accord? À toutes les Neshamot Israël, de toutes les générations. Chez la reine Nikraïm Beshem Roïm, que c'est pour ça qu'ils sont appelés au nom de berger. Alors d'abord, c'est quoi ce concept de berger? Il faut savoir que la Kadosh Baruch Hu, quand il a testé les grands hommes, comme le roi David, comme Moshe Rabbeinu, très souvent, on a vu que ça tournait autour d'un berger, Yaakov Avinu. Par exemple, pour le roi David, on dit que Akadosh Baruch Hu, à quel moment Akadosh Baruch Hu a décidé que c'est le roi David, David Ben Ishaï, c'est lui qui deviendra le roi David? C'est quand le roi David était berger, et là Akadosh Baruch Hu a remarqué quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué que le roi David, c'était David Ben Ishaï à l'époque, il avait dans son troupeau, trois types d'animaux. Il avait des animaux faibles, il avait des animaux moyens, il avait des animaux jeunes. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait passer, quand il les amenait paître, il les envoyait paître, il les envoyait d'abord... D'accord,
C'est nouveau.
Quand,
on remarque tout, de toute façon.
Quand il les envoyait paître, qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait d'abord les animaux qui étaient faibles. Comme ça, il a dit, les animaux qui sont faits, ils vont prendre les branches les plus fines. Les herbes les plus fines, les plus tendres et les plus faciles à prendre. Ensuite, il a envoyé les bénoniotes, dit le Midrash. Ensuite, il a envoyé les animaux, qui étaient ni forts ni faibles. Et donc, eux prenaient ce qui restait. Mais après, il restait les herbes très dures. D'accord, les herbes très dures, qu'il fallait vraiment être costaud pour les prendre. Et ces herbes très dures, qui c'est qu'il a envoyé après? Il a envoyé les jeunes. Il a envoyé les animaux jeunes, les costauds. Eux, il les envoyait pour prendre ça. Et quand Akadosh Baruch Hu, il a vu que le roi David faisait ça, pas une fois, pas deux fois, mais c'était sa manière de faire. Il a dit, cette personne-là, Hu-Ra-Oui, c'est lui qui est apte à diriger un peuple. Une personne comme ça qui est capable de diriger un peuple. On a vu ça chez le roi David, on a vu ça chez Moshe Rabbeinu, dans la fameuse histoire que Moshe Rabbeinu, quand il a eu un mouton, qui s'est sauvé, d'accord, on a vu comment Moshe Rabbeinu a fait Messirut Nefesh. pour aller le chercher. On dit que le Midrashique, à ce moment-là, Kadosh Baruch, quand il a vu comment Moshe Rabbeinu était prêt à donner sa vie, alors que bon, c'est rien un par rapport aux autres, pas la fin du monde. Kadosh Baruch Hu a dit, une personne comme ça, c'est lui qui est raouille, c'est lui qui est apte à être berger. On a vu ça chez Yaakov Avinu, on a vu ça comme le Ramban, il dit, le Ramban Nachmani, il dit que de manière générale, les patriarches, ils aimaient toujours être bergers. Toujours, ils avaient toujours un rapport avec les animaux. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons, d'accord ? Plusieurs raisons. Une des raisons, explique Nachmani, il dit parce que c'était une manière pour eux de servir à Kadosh Baruch tranquillement. C'est que quand t'es un animal, il te prend pas la tête, tu peux servir à Kadosh Baruch tranquillement.
Bah oui.
Le Zohar explique comme ça. Le Zohar nous dit que c'est quoi le concept d'un berger ? Que quelqu'un qui est capable de paître des animaux, d'accord ? Il est capable de paître aussi des hommes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en vérité, on est comme ça. Soit des gens comprennent le concept de Rohim. Le concept
d'un... On est comme ça.
C'est une nature. On est comme ça.
On est naître.
On est comme ça. C'est comme ça le Zohar explique. Il dit que c'est une nature que les sadikim, qu'on va dire tout de suite, ils naissent avec cette nature-là d'être berger. C'est-à-dire de s'occuper. Cette berger. Les Rohim. Bon. Alors c'est qui ces sept bergers ? Ces sept bergers, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Vous avez remarqué qu'ils ne sont pas dans l'ordre chronologique. Puisque ben, on a Abraham, Yitzhak, Yaakov, ça c'est bon. Ensuite, on a, si vous avez la liste, Moshe, c'est toujours
Aaron.
Bon. Aaron, c'est déjà pas bon, puisque Aaron est avant Moshe.
Bon, peut-être le statut,
d'accord,
le statut.
À la limite, Yosef.
Ah, c'est Yosef, pas bon, on est largué.
D'accord. Et là, David.
Pourquoi berger,
ah, d'accord. Donc on suit l'arbre des Sirotes, alors.
Exactement. C'est quoi le concept des bergers ? Quand ? C'est qu'on suit l'arbre des Sirotes.
Tout de suite.
Quand Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Ça veut dire qu'on suit l'arbre des Sirotes. L'arbre des Sirotes, ça veut dire toutes les midotes de la Kadosh Baruch Hu, la bonté, la rigueur.
Ah, c'est bon, d'accord. Nistar Academy.
On suit l'arbre des Sirotes. Donc Abraham correspond à la bonté, ensuite la rigueur. Ensuite, la compassion,
d'accord.
Etc. D'accord ? Vura Tiferet, Nessar, l'envie de gagner, etc. Hod, l'humilité, Yesor, etc. La communication. Bon. Donc, les sept Rohim, les sept bergers, qui d'ailleurs correspondent à la Ménorah, au secret de la Ménorah. Vous avez remarqué qu'un des symboles les plus répandus du peuple juif, c'est la Ménorah. La Ménorah a sept branches. D'accord ? C'est le Magen David aussi, mais le Magen David, c'est assez récent. La Ménorah, c'est un symbole qui a toujours été répandu dans le peuple juif. D'accord ? Il y a sept. La Ménorah, il y a sept branches. À la Ménorah, par exemple, de l'État d'Israël. Le
Magen David.
Non, j'ai dit, à part le Magen David.
Ouais.
Dans la Ménorah...
C'est plus récent, le Magen.
Dans la Ménorah de l'État d'Israël, je crois qu'il y a aussi sept branches.
Oui,
c'est quoi ? D'où ça vient, cette branche ? C'est quoi, cette branche ?
Les Anglais.
C'est cette branche, c'est déjà, on retrouve cette branche-là depuis... On retrouve le fait que ces sept branches-là sont un symbole du peuple juif depuis déjà l'époque du Midrash. Que la Ménorah, c'est le symbole du peuple juif. Pourquoi ? Parce que ces sept branches-là correspondent quand, aux sept Rohim, aux sept bergers. Alors qu'est-ce que ça veut dire, sept bergers ? Ça veut dire comme ça. Les sept bergers, sept c'est d'avant, en tout cas on trouve des traces dans le Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire, sept bergers ? Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que chacun parmi nous, chacun dans le peuple juif, on est tous dosés, on a tous une donc, différente dose de ces sept midotes-là. Il y en a un qui sera plus fort dans Chesed, un qui sera plus fort dans Gvura, un qui sera plus fort dans Tiferet. Quand on est tous un dosage, on a tous ces midotes,
combinaison.
D'accord. Mais qu'est-ce qui va faire la différence, d'accord, entre chacun parmi nous, c'est que le dosage n'est pas le même. Le dosage entre ces midotes n'est pas le même. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on parle des bergers, on ne s'arrête pas à la vie physique de ces gens-là, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On se base sur le concept qu'ils ont amené dans le monde. C'est par rapport à ça, on nous dit par exemple que Yaakov Avinu, il est jamais décédé. On nous dit que Yosef Avinu aussi, il est pas décédé. Yosef Rai. Etc. David Melach Israël Chayvei Kayam. Qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit qu'ils sont encore vivants ? Ça veut dire que le concept des Rohim, le concept des bergers et la Mida qu'ils amènent dans le monde est toujours là. Elle ne s'arrête jamais. Elle était là avant qu'ils naissent, d'accord ? Eux, ils ont fait que la faire descendre encore plus, mais le concept a toujours existé depuis la création du monde.
D'accord.
Donc c'est ça le concept des Shiva Rohim. Le concept des Shiva Rohim des sept bergers, d'accord ? Le concept des sept bergers, c'est quoi ? C'est que chacun du peuple juif, on prend tous obligatoirement des sept bergers.
Mais qu'est-ce qui fait que c'est Moshe qu'on met en avant ?
Deux secondes. Ah, bonne question. Pour l'instant,
ils avaient aussi des patriarches.
Pour l'instant, on explique c'est quoi sept bergers. Sept bergers, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est les sept, donc ça correspond aux sept midot d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est qu'est-ce qui va pourquoi on en a tous besoin ? Parce que c'est le dosage, le différent dosage de ces midotes là qui va faire la différence entre chacun parmi nous.
Ouais.
D'accord ? C'est comme même si par exemple, c'est comme le Rav Sanhedrin donne un exemple, il dit c'est comme par exemple on dit que c'est très bien qu'un enfant, il vient de son père et de sa mère. Et pourtant, Sur un enfant, on dira celui-là, c'est le fils à papa. Et sur un autre, on dira celui-là, c'est le fils à maman. Pourquoi hein, c'est le fils à papa, on sait très bien que c'est le fils à papa et à maman. Pourquoi on dit c'est le fils à papa? Parce qu'il a pris plus de midot de papa que des midot de maman. Donc c'est pour ça qu'on a fait le fils à papa. De la même manière dans le peuple juif, on prend tous de tous les sept bergers, d'accord? Mais il y a des fois une mida qu'on a plus pris que l'autre. C'est pour ça qu'on dira, ah, celui-là, il est chesed à 100%. Alors qu'on peut pas être que chesed à 100%. C'est pour ça aussi que le roi David dit, ah, tigou bimshichai. Il dit, ne touchez pas bimshichai dans mes oins. D'accord? Ceux qui sont oins. Et la Gemara explique, c'est quoi mshichai, Gemara Shabbat? Elle dit, elu tinokot shel bet rabban. C'est les tinokot shel bet rabban, c'est-à-dire c'est les enfants. Les enfants qui étudient la Torah, donc les enfants qui étudient la Torah. Bon, les enfants qui sont chez leur maître. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi tu les appelles Meshichai? Dans le mot Meshichai, on a le mot Mashiach. Quel rapport avec Mashiach? Quand? Et la réponse, c'est la même chose. C'est que on retrouve ça surtout chez les enfants, qu'un enfant, il a envie de changer le monde.
Ouais.
D'accord? Un enfant, comme Mashiach. Mashiach, il va être là pour changer le monde. Alors, c'est intéressant. Et après, il grandit, et bon.
C'est le monde qu'il a changé.
Comme le rabbi de Côte qui dit, quand j'étais petit, je voulais changer le monde. Ouais, ouais. Après quand j'ai grandi un peu plus,
non,
après,
je voulais changer mon pays.
Après, quand j'ai grandi un peu plus, j'ai dit, bon, je veux pas changer le monde, je veux changer mon pays. J'ai grandi un peu plus, j'ai dit, bon, ma ville. Non. Et comme ça, mon quartier, ma famille. Jusqu'à qu'à la fin, j'ai compris, il était déjà j'ai compris que, déjà, ça serait bien que j'arrive à me changer moi-même. Ouais. Mais je suis déjà vieux, quand ça est terminé. Ouais,
ouais. Alors, c'est pas forcément une qualité, alors.
Donc, c'est quoi? Non, si on utilise ça dans le bon sens, bien sûr, c'est une bonne chose.
C'est pas forcément une qualité.
Quoi?
De vouloir changer.
Bien sûr, c'est une question, c'est une qualité.
Ah non, parce que t'as les gens, ils ont 90 ans, ils sont encore communistes. Hein.
Leur avis de cote, il faut comprendre
non, le monde. Non, je parle pas sur leur avis de cote. Cette qualité-là, elle est amenée à changer, autrement, c'est un défaut.
Alors c'est quoi Meshichai, justement? Meshichai?
C'est pas un défaut, c'est une motivation. C'est un élément de motivation dans sa vie. On a envie de changer les choses, et après...
Très bien, c'est comme Netzar.
C'est un élément de motivation, les gens qui veulent changer les choses, c'est de la motivation.
C'est très très bien.
J'appelle aujourd'hui quelqu'un de motivé.
Oui.
Il y a des gens qui veulent rien faire, ils sont toujours à traîner la patte, qui est tout seul truc de vouloir proposer. Ils sont pas motivés, ils n'ont pas l'aspect, ils n'ont pas ça.
Et indique un...
Voilà.
Et les enfants, ils sont plus rapidement motivés que les adultes. Voilà. On le voit clairement.
Ils sont plus vite, les enfants.
Et c'est pour ça que le roi David, il dit, Altigou Mshichai, il les appelle Mshichai, pourquoi? Parce qu'à ce moment où les enfants, ils sont motivés, qu'est-ce qui pousse leur motivation? Qu'est-ce qui pousse leur envie de changer le monde? C'est Mshichai, le fait qu'on a chacun en nous, un petit peu de l'étincelle de Mashiach. Très bien. On comprend beaucoup de choses avec ça. Bon. Alors maintenant, il y a la question de Yaakov. Yaakov, il pose la question. Quand?
J'ai pas lu. Hein,
quand? Yaakov pose la question. Il dit, mais pourquoi tu me parles de Moshe Rabbeinu?
Ah oui.
Il y en a sept. Tu m'as dit que Moshe Rabbeinu. Pourquoi on met Moshe Rabbeinu en avant? Ça. On va essayer d'expliquer.
Parce qu'il a le spécial.
En tout cas, on comprend que quand la Torah nous raconte quelque chose, quand la Torah nous raconte, il y avait Abraham, il y avait Yitzhak, Yaakov, on voit beaucoup comment dans la Chassidoute, on l'a vu beaucoup chez le Baal Shem Tov, comment on essaye de retrouver un lien avec la vie d'aujourd'hui, de montrer comment ce qui s'est passé à l'époque, on peut l'appliquer aujourd'hui. Alors comment, l'Ichyot Imazban, comme le Rabbi disait toujours, comment on peut vivre avec le temps et montrer comment l'actualité qu'on a aujourd'hui, comment on peut la retrouver dans la Torah. Bon. Alors pourquoi on passe Moshe Rabbeinu? D'accord, c'est la question de Yaakov. Ok, donc il y a sept bergers, certes. Rappelez-vous la question qu'on a dit. La Gemara a posé la question, elle a dit, est-ce que la Yira c'est quelque chose de facile? Comment tu peux me dire que qu'est-ce que Dieu te demande que l'aïque de le craindre? C'est pas quelque chose de facile. La Gemara a répondu, elle dit oui par rapport à Moshe Rabbeinu. On a posé la question, on a dit, mais Moshe Rabbeinu, on sait que c'est facile, mais on parle pour le peuple juif. Quelle est la clé de la réponse? La clé de la réponse, c'est qu'on est tous un petit peu de Moshe Rabbeinu. Chacun parmi nous, on a de Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi on parle de Moshe Rabbeinu? On dit parce que Moshe Rabbeinu fait partie des sept bergers. Ok. Alors, sept bergers, pourquoi Moshe Rabbeinu? Explique comme ça. Moshe Rabbeinu, alav hashalom, hu klalut kula.
Moi, j'ai entendu une fois un commentaire qui dit, quand c'est marqué dans la parashat Vayelech Moshe, c'est marqué où il est allé. C'est marqué où il est allé.
Oui.
Dès qu'il est parti dans le Neshama de chaque ville.
Avec, ouais, oui, c'est les Shivaroïm, c'est les Shivaroïm. Alors, mais justement, on va expliquer comment Dafka chez Moshe Rabbeinu.
Je dis pas oui, t'as
dit. D'accord? Oui, il est parti.
Ouais. Parce que c'est juste à la fin, quoi. Nisaïm va y aller, et après, c'est il meurt.
On va ramener le Dutsu qui m'a pris. C'est le Dutsu qui m'a encore qui parle de oui, justement, c'est la paracha va y aller.
Bonne idée, ça.
Bon. Alors, pourquoi on fait passer Moshe Rabbeinu? Ou Moshe Rabbeinu à la Vachalom, ou Klalout Kula.
Ah, lui, il est...
Parmi les sept bergers, on va expliquer que Moshe Rabbeinu, lui...
C'est un centralisateur.
Englobeur. Dans Moshe Rabbeinu, pas un englobeur. Chez Moshe Rabbeinu, d'accord, on retrouve tous les autres tous les six autres
Berchim.
Très bien. Même si avant d'arriver à avant qu'on explique ça selon le Sod, expliquer selon le Sod.
Selon le Pshat,
on voit déjà que Moshe Rabbeinu dans sa vie était un avis.
D'accord.
C'est un avis, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était un avis, c'est un prophète. Et puisque Moshe Rabbeinu est un prophète, c'est pour ça que on ne peut pas contredire ce que Moshe Rabbeinu a dit, parce qu'on ne peut jamais contredire ce qu'un prophète a dit. Si un jour, aujourd'hui, quelqu'un va venir, va dire, parce que Moshe Rabbeinu, il avait sa manière d'analyser la Torah, moi je pense que Moshe Rabbeinu a mal reçu, je change, je suis pas d'accord. Ça marche pas. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est un avis. Moshe Rabbeinu, il a le statut d'un avis, et un avis, d'accord, un prophète, on peut jamais changer ses paroles. C'est comme ça, Maïmonide dit clairement, dans les lois de fondement de la Torah, il y a un avis, on peut pas changer ses paroles. Donc Moshe Rabbeinu est un avis. Moshe Rabbeinu, comme on l'a dit, au Fabringen d'avant-hier, Moshe Rabbeinu est un meler, également un roi. Maïmonide dit que Moshe Rabbeinu est un roi. Et Moshe Rabbeinu a également le statut de Kohen. Ce que j'entends par Kohen, d'accord? Mamlechet Kohanim, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'entends par Kohen? Kohen, ça veut dire que c'est un dirigeant. Moshe Rabbeinu a une shlemut, a une plénitude qu'on n'a pas retrouvée chez les autres. Ça veut dire déjà, avant même de passer par le Sod, expliquer pourquoi, dans la Neshama, Moshe Rabbeinu, il y a tous les six autres bergers, on voit déjà que même Begeshmiut, matériellement, on a vu que chez Moshe Rabbeinu, on retrouvait une plénitude, on retrouvait une perfection.
Fonctionnellement,
on retrouvait une perfection qu'on n'a pas retrouvée ailleurs. Certes, il y a d'autres personnes qui avaient des qualités que Moshe Rabbeinu n'avait pas, peut-être, mais Moshe Rabbeinu avait une certaine perfection qu'on n'a pas retrouvée ailleurs. Bon, maintenant, on va passer au Sod. Venikra Raya Me'emna. Moshe Rabbeinu, dans le Zohar, est appelé Raya Me'emna.
Le berger...
Berger fidèle.
Fidèle.
D'ailleurs, dans le Zohar, il y a toute une partie qui s'appelle, toute une section qui s'appelle Raya Me'emna. Il faut savoir que le Zohar, dans la forme qu'on a aujourd'hui, il n'a pas été compilé comme ça. À la base, c'était plusieurs petits livrets. Et c'est bon, aujourd'hui, les imprimeurs, ils l'ont compilé dans la forme qu'on a aujourd'hui. Mais à la base, c'était pas que ça n'a jamais été compilé comme ça. Il y a plusieurs sections. Donc, il y a des sections dans le Zohar, il y a Hidra Rabba, Hidra Zouta, il y a plein de sections dans le Zohar. Donc, une des sections du Zohar s'appelle Raya Me'emna. Raya Me'emna, c'est une section qu'on parle principalement de Moshe Rabbeinu. Là-bas, il explique comment Moshe Rabbeinu, Raya Me'emna, un berger fidèle. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un berger fidèle? Venikra Raya Me'emna. Ça veut dire quoi que Moshe Rabbeinu c'est un berger fidèle? Da Inu, ça veut dire Shemamshir Prinat Adat. Pourquoi on dit que Moshe Rabbeinu est un berger fidèle? Que parmi tous les bergers, Moshe Rabbeinu, lui, est un berger fidèle. C'est-à-dire celui à qui Akadosh Baruch Hu, on entretient, mais il dit, je fais confiance à lui plus qu'aux autres. Parce qu'on dit que Moshe Rabbeinu, sa mida, c'est Da'at. On dit que Moshe Rabbeinu, sa qualité principale, c'est que c'est lui qui a enseigné le peuple juif qui, où il amed, et béné Israël, Da'at. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a enseigné au peuple juif Da'at, la connaissance. Or, maintenant, on va rentrer dans... Je ne crois pas qu'on va finir aujourd'hui. On aura plusieurs cours dans lesquels on va expliquer le concept de Da'at. On l'avait déjà vu rapidement, brièvement, dans le chapitre 4.
Les mitzvot intellectuelles, plutôt.
Bien, chapitre 4. Et là, l'Admor HaZaken va expliquer brillamment, enfin, si je peux me permettre, comment, dans la mida de Da'at, on retrouve toute la qualité du peuple juif. Et comment, une fois qu'une personne a la qualité de Da'at, il a tout gagné. Comment tout est dans Da'at. Et ça va être la clé pour arriver à la Yirat Hashem, ça va être la clé pour arriver à l'amour de Dieu. Ça va vraiment, ça va passer partout. Ça va passer partout. Alors, je préfère vous prévenir depuis maintenant que ça va prendre un peu de temps. D'accord? D'abord, on va expliquer qu'est-ce que c'est la date, comment Moshe Rabbeinu nous amène le date, comment les sages de chaque génération nous amènent le date. Ça va prendre du temps. Mais on va expliquer comment le date, c'est la clé de toutes les midot. Une fois qu'on a le date, en deux mots, ça sera l'attachement, qu'on s'attache avec la chose, il y a tout qui suit. On va expliquer ça longuement. Donc il dit comme ça. C'est pour ça que, en d'autres termes, c'est pour ça que, qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Avec ça, on va comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il répond la Gemara? La Gemara, quand elle pose la question, elle dit, est-ce que c'est facile? Elle dit, oui, c'est facile pour Moshe. Pourquoi j'ai choisi que Moshe parmi les sept bergers? Parce que Moshe Rabbeinu, il a la qualité de Da'at. La clé de Da'at, c'est le passe-partout. Une fois qu'on sait utiliser ce passe-partout, Chazak pour la description, pour la définition, une fois qu'on a le passe-partout, alors c'est facile. Tout va être facile. Donc ça, ce qu'il va expliquer l'Admor HaZaken dans ce chapitre, il va expliquer comment le Da'at est un passe-partout et comment on s'en sert. Ça. Ouais, donc on a démarré avec Moshe Rabbeinu, mais en vérité, on va partir sur Da'at. Bon. Alors, c'est quoi Da'at? Dainu Shemamshir Prinat Da'at L'Iklalut Israël. Moshe Rabbeinu, celui qui amène le niveau de Da'at, L'Iklalut Israël à tout le peuple juif, donc pas seulement les juifs de son époque, mais même les juifs jusqu'aujourd'hui. Leïda et Hashem, c'est quoi Da'at? C'est de connaître, de s'attacher avec Dieu, comme on va expliquer tout de suite. Kol Echad Kefi Asaget Nishmato. Moshe Rabbeinu va donner à chaque personne du peuple juif la dose de da'at, la dose d'attachement qu'il a besoin pour s'attacher avec le Kadosh Baruch Hu, chacun selon sa neshama. Shorcha le mala, D'accord ? Vinikata Mishurash Man Mosharvenel Avashalom. Qu'est-ce qui fait qu'on s'attache avec Akadosh Baruch Hu ? Par qui on passe ? On est obligé de passer par le vaisseau de Moshe Rabbeinu. On passe par l'intermédiaire de Moshe, par la Neshama de Moshe Rabbeinu. Amushreshet, Bedat Elion, Shebe Eser Sfirot de Atsilut, Amyuchada de Matsilon Baruch Hu. On avait expliqué dans le chapitre 40, chapitre 41, on a expliqué longuement comment il y avait quatre mondes, Atsilut, Briya, Yetira, Asiya. Dans Atsilut, qui est le monde de l'émanation, c'est le monde le plus haut. On a dit que ça c'est le monde des grands tzadikim. Vous vous rappelez? On avait dit qu'il y avait le monde des gens simples, le monde des tzadikim, le monde des grands tzadikim. Atsilut, qu'est-ce que ça correspond à Atsilut? Atsilut, c'est le monde dans lequel il n'y a pas du tout de matériel et que du spirituel. Et après, progressivement, Briya, Yetira, Asiya, on a le matériel qui va progressivement se matérialiser. D'accord? On a le spirituel, pardon, qui va progressivement se matérialiser. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il nous donne? Moshe Rabbeinu, il va aller puiser du niveau de Da'at qui est dans Atsilut. Et il explique ici, je finis juste la phrase, j'explique. Shehu, vedato echad, vehu, amada, d'accord? Vechule. Ça, c'est une phrase qu'on a vue dans le chapitre 2, en même de Maïmonides. Maïmonides, il dit que, toujours dans la loi des fondements de la Torah, il dit que notre cerveau n'est pas conçu pour comprendre qui est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que nous, de la manière comment on réfléchit, on a celui qui connaît, donc celui qui apprend. Voilà, moi, par exemple, je vais apprendre quelque chose. Donc, il y a moi qui vais apprendre quelque chose. Il y a la connaissance, d'accord? Et il y a la connaissance une fois qu'elle est connue dans ma tête. Donc, il y a trois choses ici. Il y a moi, avant d'avoir connu la chose. Il y a le texte, donc le savoir. Et il y a le savoir une fois qu'il a été analysé par ma tête, qui n'est pas forcément, qui va prendre toujours une autre forme que le savoir à l'état brut. Ça, c'est comment nous on réfléchit. Donc, pour nous, on imagine ces trois choses comme trois entités différentes, trois choses différentes. Le savoir dans la tête de l'homme, le savoir à l'état initial et l'homme. Trois choses différentes.
D'accord.
Très bien. Chaque Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme
trois
ça.
Trois étapes.
Trois étapes, oui, mais c'est-à-dire ces trois étapes, c'est-à-dire ces trois choses qui sont distinctes,
oui,
qui ne sont pas une seule chose.
Par le temps.
Oui.
Pas forcément.
Qui sont distinguées, non, pas que par le temps. La preuve, d'accord. Preuve, c'est que ce que j'ai compris, c'est pas forcément ce qui est écrit.
Voilà. Bon, ça, c'est un problème d'interprétation.
Après, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que nous, dans notre tête, la manière comment on comprend, c'est que c'est trois choses différentes. Alors, bien entendu, après, le savoir, je le mets dans ma tête, pas de problème. Mais c'est quand même deux choses différentes. Il y a moi et il y a mon savoir.
Chaque Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça.
Chaque Kadosh Baruch Hu, dit Maïmonide, Hu Amada, Vehu Ayodea, Vehu Ayadua. C'est lui le savoir. C'est lui celui qui sait, donc la personne qui sait. Et c'est lui Ayadua, ça veut dire le savoir qui est su. Et ça, Maïmonide dit, ne cherche pas à comprendre parce que le cerveau humain n'est pas conçu pour comprendre ça.
Bah oui, parce que le savoir qui est su,
on comprend pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pourquoi il dit ça Maïmonide? Pour dire que quand on étudie la Torah, on avait ramené dans le chapitre 2, pour dire que quand on étudie la Torah, on peut pas dire que j'étudie la Torah de Dieu. Si tu dis j'étudie la Torah de Dieu, je dis bon, il y a Dieu, il y a sa Torah, et il y a moi qui l'étudie. Non. Puisque Dieu et sa Torah, c'est une seule chose. Ou Amada, ou Ayodea, ou Ayadua. Donc quand j'étudie la Torah, ça veut dire que j'étudie Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est ce qu'on a expliqué dans le chapitre 2. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ici? Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il amène? Qu'est-ce qu'il va développer chez le juif? Il va développer le niveau de Da'at. Le rôle principal de Moshe Rabbeinu a été de nous enseigner la Torah. Ça veut dire quoi de nous enseigner la Torah? Ça veut dire de nous attacher pas seulement avec le savoir de Dieu, de nous attacher avec Dieu en personne. Parce qu'en s'attachant avec le savoir de Dieu, avec la Torah, on va s'attacher avec Dieu. Donc le concept de Da'at, c'est quoi? C'est attachement avec Dieu. Moshe Rabbeinu, il va nous tirer vers le Da'at qu'il y a dans Atzilut, dans le niveau de Da'at qu'il y a dans Atzilut. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu va nous attacher avec le savoir de Dieu. Donc qui dit savoir de Dieu, dit Dieu en personne. Et ça, ça va être le passe-partout. S'attacher avec Dieu. S'attacher avec Dieu. En quoi c'est difficile, on va expliquer.
En quoi c'est Moshe Rabbeinu, je crois.
En quoi c'est... Parce que Moshe Rabbeinu, c'est Da'at. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a transmis la Torah.
Ouais.
D'accord? Et donc Moshe Rabbeinu, c'est le Da'at, c'est la connaissance. Or, puisque Maïmonide explique que chez la Kadosh Baruch Hu, la connaissance et ce qui est connu, c'est une seule chose. La connaissance et celui qui est connu, c'est une seule chose. Donc ça veut dire que en étudiant la Torah, on étudie la Kadosh Baruch Hu en personne. Donc là déjà, le Don Razaken a commencé à expliquer. Vous me dites, hein, c'est trop compliqué.
Oui, non, juste un truc. Quand on prend le Moshe Rabbeinu sur l'arbre de Sephiroth, il représente pas Da'at, il n'a pas la mise à Da'at.
Oui, Moshe, c'est une bonne question. Moshe Rabbeinu représente Hod, il représente la Hanava,
voilà.
D'accord? Mais parce que là, dans l'arbre de Sephiroth, il n'y a pas du tout Da'at.
Voilà.
Da'at, c'est pas du tout dans l'arbre de Sephiroth.
Voilà, c'est ça.
Moshe Rabbeinu, dans l'arbre de Sephiroth, il représente Hod, mais dans le Chochma Bina Da'at, Moshe Rabbeinu représente Da'at. Parce que c'est écrit qui houille la mède à devenir Israël Da'at. C'est écrit comme ça.
Chochma Bina Da'at, représente Da'at.
Très bien. D'accord. Donc, je fais un peu le point. D'accord?
Qu'est-ce que tu représentes dans Chochma, alors? Il y a quelqu'un?
Chochma, Shlomo, je crois, ouais. C'est pas, oui, la raison Shlomo. Bina, je sais pas c'est qui. Bina, je crois que c'est Avraham Avinu, si je me trompe pas, je suis pas sûr, faut que je vérifie. Je ne veux pas raconter de bêtises. Je crois que Bina, je crois que Bina, je ne suis pas sûr. Bon, je ne veux pas raconter.
C'est au-dessus de la Rosh Hashanah.
Non, c'est deux choses différentes. Et la Chorma est un intellect. Des approches différentes. Très bien. Alors, donc, où on en est? On a expliqué, on est en train d'expliquer comment en vérité, en nous, on a tous du niveau des sept bergers. Et on a expliqué comment parmi les sept bergers, le berger principal, a priori, le berger qui regroupe tous, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu a une qualité principale. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui va attacher le peuple juif avec Akadosh Baruch Hu. Puisque en étudiant la Torah que Moshe Rabbeinu nous a transmis, donc en passant par le biais de Moshe Rabbeinu, on va s'attacher avec Akadosh Baruch Hu directement. Donc, continuez de Moazaken. Mais Odzot. Donc ça, c'est un premier point. Premier point. Pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu représente qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu est le berger principal? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, d'accord? Moshe Rabbeinu nous donne à chacun parmi nous le da'at qu'on a besoin, le niveau de da'at qu'on a besoin pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, sans travail, sans rien faire. On l'a, c'est comme ça. C'est là que Moshe Rabbeinu qui nous le donne. Bon, on verra pourquoi c'est pas facile, mais c'est Moshe Rabbeinu nous le donne. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement. À part ça. Continue à demander à quelqu'un. Ve'odzot yeteralken. Moshe Rabbeinu, il s'arrête pas là. Il nous laisse pas en plan. Chez Bechol Dor Vador, dans chaque génération, Yordin Nitsotsi Minishmat Moshe Rabbeinu à la Vachalov. Dans chaque génération, on va avoir des étincelles de Moshe Rabbeinu. Donc, mis à part le fait qu'on a dit que Moshe Rabbeinu représente, dans la Ménorah, il représente, on a dit, la Sphira de Da'at. Qui la Sphira de Da'at représente l'attachement du peuple juif à Dieu. Et on va dire, ça c'est le passe-partout. À part ça, Moshe Rabbeinu, dans chaque chachamim, on verra après qu'est-ce qu'on considère comme un chacham, dans chaque chacham de chaque génération, Moshe Rabbeinu va envoyer une étincelle. Une étincelle, c'est-à-dire que ce ne sera pas tout Moshe Rabbeinu, ce sera une étincelle, de manière à ce que dans ce chacham, dans le chacham qu'il y aura dans chaque génération, dans les chachamim qu'il y aura dans chaque génération, il aura un comportement qui est propre à Moshe Rabbeinu. Et donc, il réussira à encourager le peuple juif, à rajouter le da'at au peuple juif, à attacher le peuple juif avec Akadosh Baruch Hu, comme Moshe Rabbeinu l'a fait. Ça, c'est le rôle d'un tzaddik. Ça, c'est le rôle d'un tzaddik. Le rôle d'un tzaddik, c'est d'attacher le peuple juif à Dieu. C'est encore plus important que son rôle de leur enseigner la Torah, etc. Ça, c'est le rôle d'un rav. C'est deux choses différentes. D'accord ? Le rôle d'un tzaddik, c'est pour ça qu'on a eu des tas de tzaddikim qui n'ont pas spécialement enseigné la Torah. Ils n'ont pas eu des talmidim auxquels ils ont enseigné la Torah, alors c'était très très fort. Leur rôle, c'était de dire des divrei chizouk, des paroles d'encouragement, etc. On se demande pourquoi, alors qu'on sait, d'accord, on sait que c'était des gdolim, c'était des grands. On sait, on a les preuves. Comment ça se fait? D'accord, comment ça se fait? Parce qu'il faut bien faire la différence entre un tzaddik et un rav. C'est pas du tout la même chose. Le but d'un rav, c'est d'enseigner la Torah. Le but d'un tzaddik, c'est de donner des divrei chizouk. Enfin, donner des paroles d'encouragement. Et ça, on le voit dans tous les courants, partout on le voit. Ça, je veux dire, que ce soit dans mon lituanien, dans mon tracidique, on le voit partout, qu'à un certain moment, quand un rav, il prend la position de gadol, si on peut dire, enfin, je sais pas si on peut dire le mot comme ça, gadol, à ce moment-là, on n'entendra plus spécialement de chidushim de sa bouche comme on l'a entendu avant. On entendra moins de chidushim qu'avant. On va voir comment, principalement, le plus clair de son temps, il va passer à encourager les gens, à s'occuper du peuple, à essayer. On a l'impression que c'est une perte de temps à son niveau, parce qu'on a connu, on a connu qu'il était avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un switch. Il est passé du. Il fait froid là? On est en baisse? Il y a eu un switch entre Rav et Tzadik.
D'accord. Pourquoi il a basculé?
Pardon? Change de rôle.
Oui, mais cette partie a été donnée.
Parce que le rôle d'un Tzadik, c'est comme Moshe Rabbeinu à la vache à l'homme, oui. C'est d'art. C'est d'attacher le peuple juif à Dieu. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, le fait qu'il nous enseignait la Torah, c'était seulement un moyen pour nous attacher à Kadosh Baruch Hu. Tu comprends? Bien sûr que Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah, c'est sûr. Mais le fait qu'on prend Moshe Rabbeinu en tant qu'un des sept bergers, quelle qualité on prend? Le fait que Moshe Rabbeinu a utilisé la Torah comme moyen pour nous attacher à Kadosh Baruch Hu. Puisque en s'attachant à la Torah, comme on a expliqué en Maïmonide, en s'attachant à la Torah, on s'attache directement à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce qui se passe, comme dit la Gemara Zaken. Ve'odzot yeteralken, ve'chol dor vador yordim nitzotzim minishmat Moshe Rabbeinu alav shalom. Dans chaque génération, il y a des étincelles qui descendent de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Ou mislabshim begouf venefesh. Ils vont s'habiller dans le corps et dans l'âme. Qu'est-ce qu'il veut dire ici en disant dans le corps et dans l'âme? Il y a une note du Rabbi dans laquelle le Rabbi dit que c'est pour ça qu'on voit que même quand on voit un tzaddik, même si on n'a rien entendu du tzaddik, le fait de voir un tzaddik, ça va nous rajouter dans la Emouna et ça va nous approcher de Dieu. Je sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment. On voit un tzaddik, il t'a rien dit. Le fait même de voir le tzaddik, ça nous a rapproché de Dieu. Pourquoi? Parce que l'étincelle de Moshe Rabbeinu, elle s'habille pas simplement dans la neshama du tzaddik. Elle s'habille aussi dans le corps du tzaddik. Le fait même de voir un tzaddik, c'est comme si qu'on voyait Moshe Rabbeinu. Ça même, ça nous attache avec Dieu. Quel va Romer, à plus forte raison, c'est le tzaddik qui nous donne des paroles d'encouragement. Mais le fait même de voir un tzaddik, déjà ça mène Yirat Shamayim. Déjà ça va nous rapprocher des Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il y a ici, Begouf Venefesh. Donc dans le corps et dans l'âme, Shel Chachmé Ene Aïda, dans le corps et dans l'âme, Shel Chachmé Ene Aïda, donc des Chachamim, Ene Aïda, qui eux sont appelés les Ene Aïda, les yeux, quand les yeux de la génération. Alors qu'est-ce qu'il veut dire en disant les yeux de la génération? Ici, ramène un Rachid, deux secondes.
On a dû penser que c'était un Neshama qui irradiait dans le corps.
Voilà, ici. Chokhmé Ador, Ene Aïda. Il y a un Rachid qui dit donc dans la Gemara Ta'anit, qui dit c'est quoi les, donc ça veut dire quoi les Chachamim de la génération, les yeux de l'assemblée. Rachid dans Ta'anit, il dit, sur Ene Aïda, il dit Kiskeni Mameiri met Ene Aam. Il dit comme les anciens qui éclairent les yeux du peuple. Ça veut dire que quand on parle d'un tzadik ici, quand on parle des tzadikim qui prennent une étincelle de Moshe Rabbeinu, on ne parle pas des tzadikim qui sont perso. On parle des tzadikim qui ont pris pour mission de l'élamed, d'accord, d'enseigner au peuple juif la Torah.
C'est pas
l'enseigner, c'est même pas les nistars, non. Les nistars, ils n'ont pas l'étincelle de Moshe Rabbeinu. Enfin, comme Rachid dit, Kiskenim.
Ça se voit pas alors.
Voilà, Rachid dit comme
ça.
Kiskenim, Améhiri, Metenia.
Il va pas rapprocher quelque chose.
Il a d'autres étincelles, mais il n'a pas Moshe Rabbeinu. Saute, il n'a pas Moshe Rabbeinu.
Alors,
dès que quelqu'un.
Que Moshe Rabbeinu, il est tombé dans chaque personne.
Non, Moshe Rabbeinu est tombé dans chaque personne. C'est sûr ça. Nous, on a un petit peu de chaque personne, mais on n'a pas une étincelle. On n'a pas en nous la Neshama de Moshe Rabbeinu.
On n'a pas l'étincelle.
On n'a pas l'étincelle. Qu'est-ce qui explique le... Qu'est-ce que ça veut dire l'étincelle?
C'est ce qui irradie, qui illumine.
Alors, je vais expliquer ce qu'est l'étincelle. Edmond Razaken explique dans l'écoute de Torah.
Qu'est-ce
qu'on veut dire une étincelle? C'est qu'une étincelle chez Kadosh Baruch Hu, c'est illimité. Ça veut dire que d'une étincelle, on est capable de faire un feu entier.
Oui, voilà.
Donc il n'y a pas de différence entre une étincelle et le feu entier.
Oui.
Seulement ce qu'on veut dire, c'est que le tzadik, Moshe Rabbeinu, lui envoie une petite parcelle de sa Neshama. Mais à partir de cette parcelle de Neshama, le tzadik est capable de la développer comme si qu'il était Moshe Rabbeinu.
Ah.
C'est ça le concept d'unité.
Donc c'est lui qui fait
ça. Ça nous on n'a pas.
Il fait son truc.
Nous on a un dosage verrouillé. D'accord.
Ah.
On a un dosage verrouillé.
Plafonné.
Lui le tzadik plafonné, Razak.
C'est lui qui décide.
Lui Moshe Rabbeinu, lui le. Alors que les tzadikim, les Chachmé adorent, ceux qui éclairent les yeux de la génération. Ça veut dire qu'un tzadik, dès qu'il a pris la décision sur soi de s'occuper de la génération, ça, comme on l'a expliqué il y a un mois, on a dit que ça, c'est le test qu'ont passé toujours les grands hommes. À un certain moment, à Kadosh Baruch Hu, il leur dit, voilà, maintenant, d'accord, écoute bien, Yaakov, les grands hommes. À Kadosh Baruch Hu, il leur dit à un certain moment, d'accord. Qu'est-ce qui se passe?
Non, c'est...
C'est toujours l'histoire du berger. Toujours le berger. Toujours le berger.
Il y a quelque chose qui est... Il a raté un épisode?
Non, c'est une discussion de...
Dirait Mazim très lointain. Pas à Volot.
Bon. Très lointain dans le temps ou dans...
par rapport à l'amour. C'est spatial, c'est pas temporel.
Donc il dit comme ça. Du coup, j'ai...
Attends. C'est plus où on est.
Alors... du coup, vous m'avez éloigné, notre gars.
C'est
ta zèle. Oui. Donc on dit comme ça. On dit que ça c'est le test des grands hommes.
Oui,
on a vu que comme on a vu il y a un mois, on a dit que Moshe Rabbeinu, quand à Kadosh Baruch Hu, donc Kadosh Baruch Hu vient voir Moshe Rabbeinu, il lui dit va libérer le peuple juif.
Okay.
Qu'est-ce qu'il répond Moshe Rabbeinu?
Yes.
Il dit Shlach la biyat tishlach. Envoie quelqu'un d'autre.
Toi mon frère.
Dire quoi?
Je te
demande. Dis-moi attends, Dieu il te demande, c'est-à-dire que tu es capable de le faire. Et ça c'est quelque chose qu'on a vu chez les grands tzadikim, très souvent on a vu chez les tzadikim. Tous les grands tzadikim qui sont occupés, qui ont fait un travail extraordinaire, qui sont occupés du peuple, on a vu qu'avant de s'occuper du peuple, c'était très difficile, ça leur venait très difficilement. Et que pourquoi? Parce qu'ils étaient conscients qu'une fois qu'ils ont décidé de se donner pour le peuple, c'est fini. Pour eux, c'est fini. Maintenant, ils se donnent, ils font Messirut Nefesh à 100% pour le peuple. C'est ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. Alors que lui, il est en train de monter chez Akadosh Baruch comme une fusée, maintenant, il est occupé avec quoi? Il est occupé avec Yedatan, d'Aviram et des Korach qui lui cassent les pieds tous les lundis, jeudi. D'accord? Bon. Les mercredis aussi. Bon, alors ça c'est les grands... Donc qu'est-ce qu'il dit ici?
D'accord.
Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que quand un tzadik, quand un rave prend sur soi, quand, écoutez bien ce qu'on est en train de dire. Il prend sur soi de s'occuper d'autres personnes. D'accord. D'abord il perd sa personne et à ce moment-là il reçoit en soi une étincelle de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Alors sachez que... Cette étincelle de la Neshama de Moshe Rabbeinu, on peut avoir un petit peu de ça chacun parmi nous, si on décide d'aider quelqu'un. Hein, je décide d'approcher quelqu'un à la Torah.
Voilà.
J'ai un petit peu la Neshama de Moshe Rabbeinu. Bien sûr, c'est pas la même envergure que le Gadol qui lui veut faire des gros chiffres. Mais c'est déjà ça.
Donc, il y a chacun à son datan et à Aviram alors.
Si tu veux, oui. On peut voir ça comme ça. C'est encore rare aussi.
Il a son...
Qu'est-ce qui est mieux, d'être d'Atan Zaviram ou d'être Korar?
Ne choisis pas. C'est le moment de sortir votre joker. Sortez votre joker. Si j'ai droit à trois jokers, je ne prends que le premier.
Quand on ne sait pas, on dit qu'on sait pas.
Il a dit, je sors mon joker.
Ouais,
joker, il a dit.
C'est qu'il dit comme ça. Hein
ouais, joker, il a pris.
Non, je crois que c'est mieux le troisième, non, parce qu'il est... on dit qu'il n'est pas mort. On dit que...
Ouais, il veut pas prendre le joker. L'économie, c'est joker.
Pas, mais... Je sais pas, moi je fais une question.
Il a besoin des trois pour sa femme.
Ils sont ni stars, les deux premiers, non?
Non, on continue.
Non.
Il veut pas.
Surtout Niftar.
Non.
Tout le monde est Niftar.
Non, sur le troisième, on dit que...
Korar, ils sont en dessous, il a dit.
Ils sont en dessous, il
va d'accord, revenir. Oui.
Jacob, comment il dit, Torah, t'es mon émet, Moshe, émet.
Ok, j'ai compris, alors.
Donc c'est pas Niftar, il a dit. Ah,
oui, d'accord. Bon, ils ont il est un aviram.
Ils ont encore une chance de...
Les aviram, ils ont cramé, non?
Ah oui.
Alors.
Alors, je sais pas, écoute, je sais pas si...
Joker alors.
Bon, alors, c'est Bechol Davador, je sais pas, c'est pas la réponse, c'est lui qui a dit qui est Datan Aviram, qui est Korar, je
peux la question. Il nous a dit, ouais, tous les lundis soir et jeudi soir, j'ai Datan Aviram, alors c'est pour ça que
j'ai dit qui est tous les lundis et jeudi, ça veut dire tout...
Tous les jours, quoi.
Tous les jours.
Ah, les lundis et tous les jours.
Ouais, c'est quand on sort la Torah.
C'est Bechol Davador, ça veut dire à haute fréquence. Shibachol Davador Yordim Yisotiv Nishmat Moshe Rabbeinu à haute fréquence, entendu. Shibachol Davador Yordim Yisotiv Nishmat Moshe Rabbeinu Alav Shalom ou Mitlapshum Beigu Venefesh. Dans chaque génération, il y a les étincelles qui descendent. Donc ça c'est le deuxième point. Mis à part le fait que Moshe Rabbeinu va insuffler en chacun parmi nous un niveau de date d'attachement à Kadosh Baruch Hu. C'est lui, grâce à lui qu'on pourra s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Donc ça c'est le passe-partout. Si on n'a pas ça, on n'a rien. Et si on a ça, on a tout. D'accord? À part ça, il a envoyé un nitzot. Il va faire descendre un nitzot, une étincelle de Saneshama chez les deux lignes de chaque génération. Au mitzlab, Shimbegou, Venefe, Shachachme, Ador, Enna, Eda, ils vont s'habiller dans le corps et dans l'âme des Chachamim de la génération, les yeux de la génération. Les yeux de la génération qu'on a expliqué. La vérité, c'est que le concept des yeux de la génération, on l'expliquera plus loin dans les Guéret HaKodesh, dans le chapitre 14 de Guéret HaKodesh. Mais bon, en gros, c'est un peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire les yeux de la génération, ça veut dire ceux qui guident la génération, ceux qui montrent la direction à la génération. Que qu'est-ce qu'ils font? Les lamed dat et ta'am veleda gdoulat Hashem ou le ovdo belev nefesh. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gdolim de la génération? Ils vont enseigner la connaissance au peuple, pour que le peuple connaisse la grandeur de Dieu. Ou le ovdo belev nefesh, pour le servir belev nefesh avec cœur, avec âme. C'est-à-dire, c'est quoi le but d'un tzadik, une fois qu'il fait ce switch-là? C'est d'aider le peuple juif à mieux étudier la Torah et à mieux servir. Donc en d'autres termes, à mieux servir à Kadosh Baruch Hu.
Quelqu'un qui switch, il aura droit à un nitzot alors qu'il n'était pas démarré comme ça. C'est ça qui veut, qui switch, il dit je veux m'occuper des autres. Allez,
oui, il pourra peut-être avoir un switch de Moshe Rabbeinu, mais bon, il sera pas tzadik.
Donc Dieu, Moshe, il est obligé de lui envoyer un nitzot oui. à sa mesure.
Un coup de
peut-être.
Pouce, un coup de pouce, oui bien sûr, à 100%, c'est sûr ça. C'est 100%.
Ah oui.
Donc, Moshe Katouf, Da et Eloke Avicha, Veovdeu, non pardon, qui a Voda Shebalev, il est fille à Dat. Ça, c'est un grand principe qu'on a vu dans le Tania. D'accord? Grand principe qu'on a vu dans le Tania. Que même si on sait qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de le servir avec le cœur, de l'aimer et de le craindre, on a expliqué très souvent dans le Tania, d'accord? À haute fréquence. On a expliqué que on peut pas avoir des sentiments comme ça. C'est pas un jour où on se lève et il y a des sentiments. Un sentiment, ça se travaille. Un sentiment, ça se prépare. Ça se réfléchit. Une fois qu'on a réfléchi à quelque chose, c'est là que le sentiment viendra. Comme on avait dit dans les premiers chapitres, Mohar Shalit à la lève. C'est le cerveau qui domine le cœur, pas le contraire. D'accord? Ça veut dire que tout démarre par le cerveau. C'est le cerveau qui maîtrise le cœur, c'est le cerveau qui crée les sentiments. Ça, ce qui explique ici la Admor HaZaken. Il dit que si Moshe Rabbeinu nous donne le Da'at, nous donne la connaissance, on va expliquer tout ce que c'est quoi Da'at. Da'at, c'est pas seulement la connaissance, Da'at, c'est l'attachement avec la chose. S'il nous donne Da'at, alors automatiquement, il nous donne aussi les sentiments qui vont suivre, parce que je viens d'expliquer que les sentiments ne viennent pas tout seuls. Si on veut qu'un sentiment vienne, il faut d'abord travailler dans le cerveau. Le sentiment, ça vient pas tout seul. Si on veut que le sentiment vienne, il faut travailler dans le cerveau. Donc, puisque Moshe Rabbeinu, il va nous permettre de nous attacher à Kadosh Baruch Hu dans notre cerveau, et puisque en s'attachant à Kadosh Baruch Hu au cerveau, on va créer automatiquement des sentiments, ça veut dire que ce que Moshe Rabbeinu nous donne, c'est le passe-partout.
Donc, c'est le coup, alors.
C'est le?
Le coup.
Le coup. Le coup.
Le coup.
Ah là, oui, d'accord, médecin à gants. Oui, d'accord, oui, j'ai compris. Oui. Bon, c'est une parenthèse.
Là. Oui,
d'accord.
Non.
Oui, oui, oui.
Quel rapport?
Alors, j'explique parce qu'on dit que dans le Zohar, ça s'appelle le Garonne. C'est le cou, c'est ce qui est entre la tête et le reste du corps. D'accord? C'est ce qui fait le transfert. Et on dit que de la même manière, Da'at, c'est entre les... On avait expliqué ça dans le troisième chapitre.
Voilà.
Da'at, c'est ce qui se trouve entre la tête et le reste, et les entre l'intellect et les sentiments.
Voilà.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est quoi da'at? C'est quand on va s'attacher, on va... Comment on n'a pas dit le mot attaché, on veut dire on va se s'identifier avec la chose à laquelle on est en train de réfléchir, à tel point on va s'identifier que ça va créer un sentiment. Donc c'est le pont, c'est ce qui va faire le pont.
Voilà.
Entre, c'est ce qui va faire que ce que j'ai réfléchi, c'est devenu un sentiment. Parce qu'il faut savoir que normalement, dans la nature de l'homme, on peut penser quelque chose et sentir autre chose. On n'a aucun problème avec ça.
Le problème, c'est le coup.
D'accord? C'est quoi le rôle de da'at? Le rôle de da'at, c'est de penser la chose et de tellement s'identifier avec la chose
qu'on la ressent,
que ça devient une partie intégrante de moi. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Puisque Moshe Rabbeinu nous amène le niveau de da'at qu'on va développer tout de suite, et on va développer surtout la semaine prochaine, le niveau de da'at qui veut dire l'attachement, puisque Moshe Rabbeinu nous amène le niveau d'attachement, ça veut dire que Moshe Rabbeinu attache notre cerveau à Dieu, donc automatiquement il attache aussi nos sentiments, puisque les sentiments suivent le cerveau, c'est pas le contraire. Mohar Shalit Alalev. Moshe Katouf, d'accord? Donc je reprends qui est Avodah Shebalev. Vous avez dans les mots, je sais pas à quelle ligne on est, qui est Avodah Shebalev. À la ligne qui commence où le Ovdo. Voilà. Donc, qui a Avoda, Shebalev, il est fille à Da'at. Ça, c'est un point qu'on a vu très souvent dans Tania, qui dit que le service du cœur, ça veut dire que servir à Kadosh Baruch Hu avec ses sentiments, ça ne vient pas tout seul. C'est pas un genre je me lève, j'aime Dieu, je crains Dieu. Il est fille à Da'at. Ça vient par la réflexion. Ça vient par l'intellect. Comment chez Katouf, comme c'est écrit, dans Divrei Hayamim, Da'at Eloke Avira, connais, attache-toi au Dieu de ton père. Et serre-le avec un cœur entier, d'accord, et une âme qui désire, une âme désirante. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on voit dans ce livre? Vous avez bien vu l'ordre. Il a dit, connais le Dieu de ton père,
voilà.
Et après seulement, tu pourras servir à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que si on veut avoir les sentiments, si on veut servir Dieu comme il faut, on veut l'aimer comme il faut, on veut le craindre comme il faut, on est obligé de passer par la case d'Ahat, qui est la case de Moshe Rabbeinu. Continue, d'accord. Ou les Hatid ou Omer, quand ma chère va venir, qu'est-ce qui est écrit? Velo il medou ish edre eu les morts. Dans le prophète Jérémie, il nous dit que quand ma chère viendra, lo il medou ish edre eu les morts, un homme n'aura plus besoin d'enseigner à son ami en disant Dehu et Hachem, connaissez Dieu. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de s'enseigner l'un à l'autre comment connaître Akadosh Baruch Hu. Ki kulam yed ou oti. Parce que tout le monde me connaîtra. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit dans le prophète Jérémie? Ok, mais le savoir, c'est pas tout. Ce qui veut dire, c'est qu'une fois qu'on a le savoir, tout suit. Ach ikaradat, ce que je viens d'expliquer, ena yedia levada. Da'at, d'accord, on a souvent tendance à vouloir traduire da'at par la connaissance. Une mauvaise traduction. Parce qu'il dit, c'est de Morazaken, da'at, ena yedia levada. Le da'at, quand on parle de connaissance qu'on va développer la semaine prochaine, c'est pas seulement la yedia, le fait que je connais quelque chose. She yeduk dulatachem ipis farim ou pisofrim. Quand on dit que Moshe Rabbeinu nous a enseigné la Torah, c'est pas simplement qu'il nous a enseigné la science de la Torah. D'accord? C'est bon, on aurait pu apprendre une autre science, on a appris la science de la Torah. C'est pas ça, da'at. Et là, ikar, ou les ha'amik, da'atobik, d'où la tachem. C'est quoi le da'at? Da'at, ça veut dire s'approfondir, approfondir sa pensée. Big d'où la tachem, dans la grandeur de Dieu. Velit koa machashav tobashem. Et de planter sa pensée. De placer, enfin, comment on peut traduire velit koa? Pas planter, de fixer. D'accord? Machashav to sa pensée, bashem dans Dieu. On va expliquer ça tout de suite. Bechozek ve'omet salat ve'amoar. Avec un effort. C'est quoi da'at? Da'at, c'est quand j'ai compris un sujet. Je suis venu à un cours, j'ai étudié, j'ai compris le sujet. C'est quoi le da'at? C'est quand après je vais réfléchir personnellement, je vais réfléchir tout seul. Et je vais réfléchir au sujet jusqu'à ce que j'en ai marre de réfléchir. Jusqu'à ce que je sente que le sujet me parle. Jusqu'à ce que ça me casse les pieds. Jusqu'à ce que ça me sort du nez. D'accord? C'est quoi? Ça, ce qu'on me dit ici. Bechozek ve'omet salat ve'amoar. On me raconte une fois, il y a une discussion entre deux rabbinim, il y a un rav qui a dit, moi si je veux, je peux faire descendre le feu du ciel. Et l'autre rav, il a répondu, il a dit, moi je suis capable de réfléchir à la même chose pendant 3 jours. C'est très très dur. Essayez de réfléchir, de vous concentrer à une chose, d'accord? Pas si vous êtes déjà occupé par la chose, pas si quelque chose qui vous tracasse. Comme ça, prenez un sujet, essayez de réfléchir 1 minute. Vous allez voir, au bout de 30 secondes, vous craquez. Réfléchir 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. C'est quoi da'at? Da'at, c'est de s'attacher avec la chose, de réfléchir avec la chose, de réfléchir à la chose, jusqu'à ce que la chose nous prenne la tête, ça me prend la tête. Et c'est là, à ce moment-là, une fois que ça commence à me prendre la tête, c'est là que ça va commencer à rentrer, c'est là que je vais m'identifier avec la chose. Une fois que je me suis identifié avec la chose, les sentiments vont suivre comme par magie. Ça va suivre tout
ça. Alors quoi, nous sommes Moshe Rabbeinu alors?
C'est ça Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est Da'at, c'est lui qui nous donne ce koach. C'est lui qui nous donne cette force de s'attacher avec ce qu'on étudie. D'accord? Et une fois qu'on a ça, après tout le reste, ça suit. Bien sûr qu'on a besoin d'Abraham, de Yitzhak, on a besoin de tout le monde. Mais c'est du gâteau. Le plus difficile, c'est de s'attacher avec la chose. De faire le pont entre ce qu'on étudie et ce qu'on va ressentir.
Donc de se concentrer.
On le dit ici. Ar ikarada, je relis dans les mots ena yedia levada. Le principal du dat, de la connaissance, de dat, c'est quoi dat? C'est pas simplement le savoir, le fait que je connais quelque chose de plus dans ma tête. Chez Yeduk Dua Tachem, Mipis Farim, Mipis Sofrim. Mipis Sofrim, Mipis Farim. Qu'on va connaître la connaissance de Dieu, de scribes, enfin de scribes, c'est-à-dire de rabbinis qui vont nous enseigner, ou bien de livres qui vont nous l'enseigner. Ça, c'est de la science, c'est le savoir. C'est ça aussi, mais c'est pas ça le but. C'est pas ça Dat. Et là, Ikar ou les Amik, Datobik, Dua Tachem, le principal, c'est d'approfondir sa pensée dans la grandeur de Dieu. Velit Koa, Marshafto Bachem, donc de fixer sa pensée Bachem dans Dieu. Bechozek, Beomet, Salev, Beamor. Avec puissance, avec le courage du cœur et de l'intellect. C'est-à-dire essayer de sentir la chose, essayer de réfléchir à la chose. Je sais que ça nous sort des narines.
De quelle chose tu parles ?
HTE, à ce que tu étudies. N'importe quelle chose. HTE, Marshavto Mekusheret Bashem Bekesharmit Vechazak. Jusqu'à ce que je ne pense plus à mes affaires, je ne pense plus à ma voiture, je ne pense plus à ma maison. Qu'est-ce que j'ai dans la tête ? Je pense à la Torah. Je suis ailleurs. Ah, quand on est ailleurs, c'est là qu'on sait là que c'est bien.
Ça.
Cocaïne ?
Ben oui.
Je suis ailleurs. Ça c'est date. Date c'est quand on est ailleurs. Des fois vous parlez avec des gens, vous voyez, il est pas là, il est ailleurs.
C'est pour ça que les gens ils fument. Quand
il est ailleurs. Ça c'est date. Date c'est quand on est ailleurs. Que Moshe ou Mekusheret Bedavar Gashmi, Shero et Benebasa ou Mamikbo Machashavto. D'accord ? C'est de s'attacher. De s'attacher avec la chose. Comme si que je m'attachais avec quelque chose de physique que je vois. C'est facile de s'attacher avec quelque chose de physique. Là, c'est quelque chose d'abstrait. Avant de m'attacher avec une idée. On peut pas s'attacher. C'est très dur de s'attacher avec une idée. Ok, je peux bien comprendre l'idée. J'ai bien compris. Bon, je vais essayer de me comporter selon cette idée-là. Mais c'est très difficile de sentir cette idée, de sentir que c'est cette partie de moi.
Par exemple,
comment je peux faire ça ?
Une étude.
Il faut réfléchir, essayer de voir comment ça me parle. Et au moment où ça me casse les pieds, c'est là que ça va rentrer.
Ah, il faut que ça te casse les pieds.
Ça, je peux vous dire, on le voit dans toutes les études. On le voit surtout dans l'étude de la Gemara. Vous savez, on lit une première fois la Gemara, on croit qu'on a compris.
Oui.
On lit une deuxième fois, on comprend qu'on n'a pas compris.
D'accord.
Et après, un certain moment, on lit une troisième fois, ça nous casse les pieds. Eh, hey, c'est bon, j'ai compris. C'est quand ça casse les pieds, que ça te prend la tête, c'est là seulement qu'on commence à comprendre. Ça, c'est date. C'est là qu'on commence à s'attacher. Et c'est là qu'on commence à s'attacher à rentrer dans l'esprit de la Gemara, à tel point qu'après, quand tu sors dehors, j'ai fini mon cours, je referme ma Gemara, je referme mon livre, je sors dehors, j'ai encore la tête dedans.
Ouais.
Je suis ailleurs. Ça, c'est date. Date, c'est être ailleurs. Et ça, qui c'est qui nous donne le corps pour ça ? Moshe Rabbeinu. Vous comprenez qu'une fois qu'on a réussi à nous shooter, pour reprendre le terme de Yaakov, après on fait ce qu'on veut.
C'est pas un paradis ici.
D'accord ?
Fais attention parce qu'on peut avoir Da'at dans le mauvais sens.
Bien sûr, malheureusement. On peut être pris par le tourbillon du Navira, bien sûr.
Plus facile que
ça. De la même manière qu'on aurait approfondi. De la même manière qu'on aurait approfondi sa pensée, dans quelque chose qui est matériel, qui est physique.
Oui.
De la même manière, il faut essayer, c'est quoi date, d'accord, et qui nous donne la force, c'est Moshe Rabbeinu. Qui nous donne la force de nous attacher avec ce qu'on étudie, c'est Moshe Rabbeinu.
Voilà.
Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, parce que bon, au prochain, on a encore beaucoup de choses à dire sur date. Je voudrais juste faire le point de ce qu'on a dit, pour pas qu'on perde le fil. On a expliqué comment Moshe Rabbeinu, d'accord, on a ramené la Gemara, qui ramène le passou qui dit que Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar Kiim Leira. Akadosh Baruch Hu nous demande uniquement de craindre Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il te demande? Seulement de le craindre. Mara pose la question, elle dit mais quoi, ça, seulement de le craindre? On les dates, c'est tout ce que tu me demandes, vas-y. Ouais, t'aurais pu me demander moins que ça, c'est vrai.
D'accord?
Mais bien sûr, c'est très difficile la Gemara pose. Atu Ira Mil Tazutriti. Est-ce que la crainte c'est quelque chose de petit? Qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Elle dit oui par rapport à Moshe Rabbeinu. Le Marzek pose la question, on dit mais pour Moshe Rabbeinu c'est peut-être facile. Mais pour nous, c'est pas facile. Quelle est la clé de la réponse? C'est que quand on va éveiller en soi le niveau de Moshe Rabbeinu, là, ça va devenir facile. Quand on va utiliser le passe-partout, là, ça va devenir facile. C'est quoi ce passe-partout? Là, on a expliqué le concept des Shiva Rohim, le concept des sept bergers. Comment il y avait sept bergers, comment chaque juif est attaché à chacun des sept bergers. Et on a commencé à expliquer que parmi les sept bergers, le berger principal, le berger qui les regroupe tous, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi c'est Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu, il en lui date. Date, c'est quoi? C'est l'attachement avec la chose. Et comme on a expliqué ici, une fois qu'on est attaché avec la chose, on a tout. Une fois que t'as été shooté, que t'es ailleurs, c'est fini. C'est tout. Tu as tout maintenant. D'accord? Alors, on a quand même expliqué deux points. On a expliqué deux points sur shooter dans le bien.
Ouais, bien sûr. Sur le net, c'est tout.
Le mal a mis... Donc, on a expliqué le concept de Moshe Rabbeinu. on a expliqué, il y avait deux choses que Moshe Rabbeinu nous a amené. Premièrement, il a insufflé une force à chacun parmi nous, sans passer par les Gdolim de la génération. Il a insufflé une force à chacun parmi nous. C'est comme ça, Moshe Rabbeinu nous donne la force. Mais à part ça, on dit qu'à part ça, Moshe Rabbeinu, il donne son étincelle, il fait descendre son étincelle aux Gdolim, aux Chachamim de chaque génération. Qu'est-ce qu'on entend par Chachamim? C'est-à-dire aux gens qui ont décidé de s'occuper du Klal, de s'occuper du peuple juif. Ces gens-là, ils ont en eux une étincelle de Moshe Rabbeinu. Ils ont la même force que Moshe Rabbeinu. C'est quoi la force de Moshe Rabbeinu? C'est être capable d'attacher le peuple juif avec Akadosh Baruch Hu. Comment Moshe Rabbeinu attache le peuple juif avec Akadosh Baruch Hu? Moshe Rabbeinu a utilisé la méthode de l'étude de la Torah. Qu'en étudiant la Torah, puisqu'on s'attache avec Akadosh Baruch Hu, donc automatiquement, comme expliqué Maïmonide, on s'attache aussi avec Akadosh Baruch Hu qui nous a donné la Torah. Parce que Dieu et la Torah, puisque Dieu et la Torah c'est une seule chose. Alors on n'a pas du tout fini d'expliquer ce que c'est d'art,
pourquoi on expliquera
d'être attaché à la
Torah.
C'est quoi le tzara tfila? Encore une fois, pose-moi une autre question. Pose-moi une meilleure question. Tu dis, dans ce cas-là, si on a Da'at, pourquoi on a... J'attends une meilleure question. Pourquoi on a besoin d'Avraham, Yitzhak et Yaakov?
Oui.
D'accord?
Oui.
Si déjà on a Moshe Rabbeinu, pourquoi on a besoin des autres? La réponse est très simple. C'est que c'est pas parce que Moshe Rabbeinu, c'est un passe-partout que j'ai pas besoin des autres portes. Il faut les autres portes. Il faut chaque porte. Mais Moshe Rabbeinu, c'est Chazak pour la définition, hein. C'est un passe-partout. C'est pas parce que j'ai une clé passe-partout que j'ai toutes les portes. Il faut rentrer dans les portes maintenant avec le passe-partout. C'est seulement un passe.
Il suffit pas d'avoir la
clé. Le date, c'est de s'attacher avec la chose. Mais après, il faut rentrer dans chaque endroit. Ça, c'est le travail.
D'accord. Donc, parce que précédemment dans le Tania, on a dit que le gros problème qu'on avait tous, enfin la plupart des gens, c'était... par exemple, c'est marqué, tu es à moi ton prochain... Non, de pas m'exclure. Comme c'est marqué, tu es à moi ton prochain comme toi-même, on avait dit que la difficulté, c'est qu'on le comprenait intellectuellement.
Chapitre 33, oui.
Voilà, chapitre 33,
ouais.
Mais que ça avait du mal à passer dans le cœur.
Oui.
Que des fois, par exemple, on pouvait faire la fiesta, etc., dépenser 10 000 euros pour une soirée, et par contre, les gens qui crevaient la dalle à 1000 km, par exemple, et puis ça nous faisait rien d'y penser pas.
Oui.
Parce que normalement, c'est pas normal.
Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Celui qui nous donne la force de nous attacher au concept, aux choses qu'on utilise, c'est Moshe Rabbeinu. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. C'est aucun rapport avec l'arbre de Sephiroth, parce que l'arbre de Sephiroth, c'est les midot,
oui,
alors que
d'arbre.
C'est Moshe Rabbeinu.
Non mais,
excusez-moi. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous donne la force de nous attacher avec quelque chose. De toute façon, on va expliquer, on a seulement commencé à expliquer.
D'accord.
Mais on comprend tout de suite, quand on commence à étudier ce chapitre, on comprend tout de suite que le date, c'est le passe-partout. Une fois qu'on s'attache avec quelque chose, comme dans la vie précédente, il répétait souvent Simat Alev. Une fois qu'on réussit à donner de l'attention à quelque chose, à s'attacher à la chose, on a tout gagné.
Parce qu'au début,
tout
le reste, quand t'as commencé à expliquer, ça paraissait facile, c'était grâce à Moshe Rabbeinu.
Oui.
Et c'est lui qui nous faisait
c'est lui qui fait tout, on fait rien nous.
Bon, oui. Maintenant, finalement, qu'est-ce qu'on a compris? Que maintenant, faut faire un travail personnel.
Oui. Alors,
se casser la tête.
On n'a pas encore expliqué c'est quoi le travail personnel.
Mais si.
J'ai dit simplement qu'il existait, j'ai pas dit comment on le fait.
Se casser la tête dans le texte.
Oui.
Et qu'au bout d'un moment, lorsqu'on commence à dire, voilà, j'en ai marre, etc., c'est là que ça commence à venir.
Oui, c'est vrai.
Et ça, c'est grâce à cette qualité de Moshe.
Il va expliquer la Gemara Zaken, c'est un bon point ce que tu dis. La Gemara Zaken, la semaine prochaine, on va expliquer comment, bien que Moshe Rabbeinu nous donne cette force-là, mais il y a quand même un travail personnel à faire, un travail qui est très dur.
Voilà.
Surtout mais une fois qu'on réussit à trouver ce passe-partout, tout devient facile.
Surtout que l'idée de départ, c'est Yirat Hashem.
Pardon? Bon, on expliquera ça la semaine prochaine.
Surtout qu'au départ, le problème, c'est Yirat Hashem.
Oui. Tout ça, on expliquera la semaine prochaine. La différence entre, j'ai compris ce que je veux dire, le contraste entre le fait qu'on est inspiré par Moshe Rabbeinu et le fait que d'un autre côté, il faut amener notre coup de pouce.
Oui.
Le Itarou t'a dit là, Itarou t'a dit là.
On verra ça. Et puis le sujet de départ, Yirat
Hashem. Juste vraiment 10 lignes plus tard, il y a la réponse à la question. Voilà, dis que vous marchez à
Et si on dit que l'essentiel, c'est la crainte,